France Culture.
Le journal Stanislas Vazak. Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Boualem Sansal est désormais immortel. L'écrivain franco-algérien a été élu à l'Académie française 2 mois et demi après sa sortie de prison en Algérie. Une élection triomphale, 25 voix sur 26 votants. L'Union européenne durcit le ton face à l'Iran. À l'unanimité, les 27 États membres décident de classer les gardiens de la Révolution comme organisation terroriste. Téhéran dénonce ce soir une décision irresponsable et malveillante. L'Assemblée vote un texte pour mieux indemniser les victimes polynésienne des essais nucléaires français dans le Pacifique. Environ 200 000 Polynésiens ont été potentiellement exposés aux retombées radioactives. Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous avant les élections municipales. Aujourd'hui, les fermetures d'écoles en milieu rural. Fermetures que les élus, bien souvent, n'arrivent pas à empêcher. De la prison à la coupole, c'est l'incroyable destin de Boualem Sansal. L'écrivain franco-algérien a été élu cet après-midi à l'Académie française. Il occupera désormais le fauteuil numéro 3, vacant depuis un an, où il succédera à l'historien Jean-Denis Bredin, décédé en 2021. Boualem Sansal rejoint en 2026 l'un des temples de la culture française, lui qui aura passé presque toute l'année 2025 dans une geôle algérienne pour avoir remis en cause le tracé de la frontière entre l'Algérie et le Maroc. Éric Chavroux.
À 81 ans et près de 3 mois après sa libération de prison en Algérie, Boualem Sansal devient en effet immortel, plébiscité pour le fauteuil précédemment occupé entre autres par Marguerite Yourcenar ou Georges Clemenceau. L'ingénieur de formation, économiste et ancien haut fonctionnaire l'a emporté face à 5 autres prétendants et après s'être déclaré à la dernière minute le 8 janvier dernier. Un premier vote pour ce fauteuil avait déjà eu lieu en décembre, mais aucun candidat n'avait obtenu la majorité. Une consécration pour l'auteur d'une 30aine de romans, recueils de nouvelles et essais, d'autant que l'Académie avait refusé de l'élire de façon exceptionnelle pendant sa détention, comme le souhaitait Jean-Christophe Ruffin. L'institution avait dit ne pas vouloir agir sous le coup de l'émotion et dans la précipitation, même si Boualem Sansal avait déjà été distingué par le Grand Prix du roman de l'Académie française et le Grand Prix de la francophonie. C'est le retour aussi sous la coupole de celui qui avait été salué début décembre lors de la réception en main propre de son prestigieux prix Sino del Duca. À notre micro, il nous avait alors parlé de ses amis, de sa famille, de l'Académie, de sa volonté de continuer à écrire et du sort de Christophe Glaise, le journaliste français toujours en détention en Algérie.
Éric Chavroux, merci. Et ce jeudi est justement marqué par une nouvelle mobilisation en France pour Christophe Glaise, avec notamment ce matin à Toulouse le rassemblement d'une centaine de personnes et un concert de soutien ce soir au Bataclan à Paris, organisé par Reporters sans frontières. Israël salue ce soir une décision historique. L'Union européenne a décidé d'inscrire les gardiens de la Révolution sur sa liste des organisations terroristes. Les Pasdaran, le bras armé du régime des Mollahs en Iran, ce régime qui a écrasé dans le sang la dernière révolte populaire, plus de 30 000 morts selon les ONG et les médias iraniens d'opposition. C'est à l'unanimité que les 27 États membres de l'UE ont pris cette décision aujourd'hui à Bruxelles. Bruxelles où l'on retrouve Fabien Cazot, bonsoir.
Bonsoir.
Fabien, le choix de la France, annoncé seulement hier, de soutenir l'inscription des gardiens de la Révolution sur la liste terroriste, a sans doute permis cette unanimité.
Oui, à n'en pas douter. Les derniers réticents parmi les 27 ont finalement pu être convaincus. Aujourd'hui, le souci d'envoyer un message d'unité a primé sur les inquiétudes liées notamment au sort des ressortissants européens encore détenus en Iran. Les grands pays européens, France, Allemagne, Italie, ont donc joué un rôle moteur aujourd'hui, tout comme la chef de la diplomatie européenne, Kaya Kallas, qui a tenu à exprimer sa satisfaction ce soir.
Cela les met au même niveau que Daesh, le Hamas, le Hezbollah et Al-Qaïda. Ceux qui pratiquent la terreur doivent être traités comme des terroristes. Nous comptons bien mettre encore plus la pression sur les autorités iraniennes et continuer à soutenir la société civile iranienne.
Les gardiens de la révolution sont donc susceptibles désormais d'être poursuivis n'importe où en Europe pour terrorisme et toute organisation qui les financerait pourrait être considérée comme complice. À cela s'ajoutent des sanctions individuelles, gel d'avoirs financiers, interdiction de voyager en Europe pour une vingtaine de dignitaires iraniens dont le ministre de l'Intérieur considéré comme un des principaux responsables des vagues de répression de ces dernières semaines.
Fabien Cazot en direct de Bruxelles. Qu'importe les sanctions européennes et les menaces d'intervention militaire américaine, le régime iranien reste droit dans ses bottes. Après avoir maté la révolte populaire, les mollahs promettent une riposte écrasante en cas d'attaque étrangère. L'Iran a le doigt sur la gâchette, a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. À Los Angeles, on suit avec inquiétude et colère la situation. La métropole californienne surnommée Terangeles en raison de sa large diaspora iranienne. C'est un reportage de Loïc Piala.
K-I-R-N, Simi Valley, Los Angeles.
Tous les jours, de 11 à 13 heures, Tanas Fati co-présente Rangin Kaman, Arc-en-Ciel, un talk show en farsi sur Kiern Radio à Los Angeles. À l'antenne, sa voix est douce, posée. À l'extérieur du studio, elle a du mal à contenir son émotion en faisant défiler des vidéos de manifestants tués en Iran.
Et encore une autre.
Elle en reçoit presque tous les jours.
Le mouvement n'est plus aussi actif aujourd'hui. Les Iraniens espèrent que d'autres pays les aideront. Nous n'avons pas d'armes, nous n'avons rien. Les gouvernants ne doivent pas serrer la main des mollahs, ce sont des tueurs.
La radio s'adresse aux 500 000 Irano-Américains du sud de la Californie, la plus grande communauté en dehors d'Iran. Alireza Ekmatsohar est le directeur des programmes. Il pense déjà à l'après. À LA, les soutiens du prince Reza Pahlavi sont les plus nombreux.
Le soutien grandit chaque jour. Les gens pensent qu'il est celui qui peut sécuriser l'Iran et sauver le peuple. Mais on n'en sait rien, en fait.
Cette semaine, Alireza a préparé ses émissions avec des experts militaires. Le porte-avions américain Abraham Lincoln vient d'arriver dans la région.
Loïc Piala, correspondant à Los Angeles. Les médias américains l'appellent le tsar des frontières. Tom Homan, le conseiller spécial de Donald Trump pour l'immigration, est arrivé à Minneapolis, la ville du Minnesota endeuyée par la mort de René Goode et Alex Preti, tués par des agents fédéraux. Face à l'émotion et la colère, Tom Homan a promis des améliorations dans les opérations anti-immigration, mais les objectifs ne changeront pas. Franck Mathevon nous appelle de Washington.
Tom Homan est d'abord l'émissaire de la Maison-Blanche. Le président Trump veut régler ça et je vais le régler. Le responsable de l'immigration au sein de l'administration admet des erreurs dans la conduite des opérations à Minneapolis. Je ne suis pas là parce que le gouvernement fédéral a mené sa mission parfaitement. Dans son style autoritaire, Tom Homan répète que la sécurité de la population est primordiale. Il espère pouvoir réduire les effectifs déployés à Minneapolis grâce aux améliorations apportées. Il annonce notamment des opérations ciblées pour arrêter en priorité les criminels, mais si vous êtes dans ce pays illégalement, vous n'êtes pas à l'abri d'une arrestation. Le message est clair. On ne renonce pas du tout à notre mission, on va la rendre plus intelligente. Tom Homan rappelle que l'administration Trump a pour objectif de corriger les erreurs, dit-il, de Joe Biden et de sa politique de frontières ouvertes. Le président Trump a promis de rendre à nouveau ce pays sûr.
Les polluants éternels, omniprésents dans notre vie quotidienne, vont coûter très cher à l'Europe. C'est la conclusion d'un rapport commandé par la Commission européenne qui évalue la facture des PFAS à 1700 milliards d'euros d'ici 2050. Il s'agit là du scénario le plus pessimiste car il y en a plusieurs, Véronique Robérotte.
Plusieurs scénarios sont envisagés qui prennent plus ou moins en compte les traitements à venir, la dépollution des sols et de l'eau ou encore les coûts pour la santé. Le scénario le plus coûteux, à 1700 milliards d'euros d'ici 2050, comprend une large dépollution des sols et le traitement des eaux usées pour garantir que l'Union européenne respecte des normes environnementales élevées dans l'eau pour une vingtaine de polluants éternels. Le scénario le moins coûteux, à 330 milliards d'euros investis d'ici 2050, correspond à l'arrêt total de la production et de l'utilisation des PFAS, mais sans traitement supplémentaire de l'eau potable, ni traitement spécifique des eaux usées. Un scénario du statu quo envisagé par l'étude donne un coût pour la société évalué à 440 milliards d'euros sur 25 ans si l'Union européenne ne fait rien de plus plus qu'aujourd'hui, mais avec des coûts pour la santé qui s'envoleraient, notamment pour les populations à risque, travailleurs exposés dans l'industrie, les enfants ou les personnes installées à proximité de sites contaminés par ces polluants éternels. Si aucune action n'est engagée pour enrayer la production en Europe de PFAS, présents à la fois dans les cosmétiques, les ustensiles de cuisine, comme les poêles Tefal, les emballages ou les vêtements, un Européen sur 6, soit 76,5 millions de personnes, pourrait d'ici 2050 présenter des niveaux de contamination élevés et serait susceptible de développer une maladie liée à cette exposition.
Véronique Reberotte, spécialiste environnement à la rédaction de France Culture. Un vote unanime à l'Assemblée ce matin pour améliorer l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français en Polynésie. C'est l'objectif de la proposition de loi adoptée par les députés en première lecture. Entre 1966 et 1996, la France a fait exploser 193 bombes nucléaires dans le Pacifique, 46 dans l'atmosphère et 147 sous les atolls de Mururoa et Fangatofa. Près de 400 000 personnes ont été potentiellement exposées aux retombées radioactives, dont la moitié sont des civils polynésiens. Et pourtant, la loi Morin de 2010 n'a permis d'indemniser que 756 Polynésiens. Les explications de Cécile de Kervasdoué.
L'année dernière, plus de 60% des rares demandes d'indemnisation ont été rejetées par le CIVEN, l'organisme chargé de traiter ces dossiers. Le CIVEN, dont les membres appartiennent au CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, qui a mené les expérimentations nucléaires pendant 60 ans en Polynésie. Un potentiel conflit d'intérêts, donc, qui fait dire à Fleur Laronce, maître de conférence en droit social à l'Université de Strasbourg, que la loi en place actuellement est un dispositif qui a été créé pour ne pas fonctionner.
Même si la loi dit qu'il y a une présomption de causalité dès lors que les trois conditions sont réunies, donc conditions de temps, d'espace de tir et la maladie, eh bien, le demandeur serait automatiquement indemnisé. Mais le CIVEN se réfugie derrière une petite notion. Il s'agit pour les demandeurs de démontrer leur dosimétrie individuelle qui doit être de plus de 1 millisievert. Sachant que le CIVEN connaît la dosimétrie, puisque la dosimétrie, elle n'est pas individuelle.
Elle est environnementale et c'est le CEA qui faisait des prélèvements à l'époque des tirs. La nouvelle proposition de loi veut donc abolir cette notion et tout frein au régime d'indemnisation en remplaçant la notion de causalité par la notion d'exposition. La rapporteure Mériana Redarbelot est députée de la Polynésie française.
La science dit qu'il n'y a pas de seuil en dessous duquel il n'y a pas de risque de développer une maladie radioactive. Parce que l'État, en connaissance de cause, il a pris un risque en exposant les habitants à l'exposition au rayonnement ionisant. C'est ce risque qui, quand il se matérialise par la survenue d'une maladie, est indemnisé. Et pareil pour les caisses, parce que finalement, la petite sécurité sociale, qui est 70 000 cotisants, supporte la plupart des conséquences sanitaires des maladies radio-induites.
Et cette nouvelle loi prévoit d'indemniser 13 000 personnes supplémentaires, ce qui dépassera l'enveloppe jusqu'ici peu entamée de 10 millions d'euros par an prévue par l'État pour atteindre au moins 1 milliard d'euros.
À Cécile de Kervasdoué. Où l'on reparle du festival d'Angoulême qui n'aura pas lieu cette année, mais le grand off destiné à remplacer la grand-messe de la BD a débuté aujourd'hui. Pour les prochaines éditions, l'ADBDA, l'association pour le développement de la bande dessinée à Angoulême, est chargée de trouver un nouvel organisateur. Il lui faudra d'abord affronter en justice l'ancien organisateur, la société 9e Art Plus, qui a décidé d'assigner en justice l'ADBDA pour concurrence déloyale et parasitisme. Fiona Bogadam.
C'est dans une grande salle vide de la tour Montparnasse, mais remplie de journalistes, que Franck Bondou, le patron de la société 9e Art Plus, s'est exprimé pour la première fois.
En l'occurrence, ce qui est à l'œuvre, c'est l'enjeu de la gouvernance du festival, pour ne pas dire, de manière un peu plus violente, la prise de contrôle du festival.
Pendant près de 2 heures, Franck Bondou a répété son message.
Voilà à peu près 2 mois que nous tendons la main, que nous n'avons absolument aucun retour des pouvoirs publics. Tendre la main, c'était aussi pour nous, évidemment, une façon de transmettre tout un savoir-faire. Nous allons, en tout cas, nous défendre juridiquement face à cette prise de contrôle. Nous ne pouvons plus accepter d'être traité de cette manière.
S'il y a eu peu de remises en question, dans son discours, le responsable de la société 9e Art Plus a tout de même reconnu un festival qui n'était pas parfait.
Ce festival a sans doute insuffisamment considéré à certains moments les autrices. Ceci étant.
Et Franck Bondou de rappeler que des réformes ont été faites pour mettre les autrices à l'honneur. Il n'aura pas, en revanche, eu de mots pour la salariée licenciée après une plainte pour viol, affaire qui a déclenché la crise actuelle, et balayé d'autres critiques d'un revers de main, comme le management toxique. Aucune plainte déposée en 20 ans, répond Franck Bondou, qui dit se soucier des équipes de 9e Art Plus. Une cinquantaine de personnes n'ont pas pu être payées suite à l'annulation du festival.
Fiona Mogadam, merci. Un mot du temps demain qui restera perturbé, pluvieux et venteux sur la plupart des régions. Il neigera sur l'ensemble des massifs montagneux. Demain matin, faible gelée dans le nord-est, entre 2 et 9 degrés. Les températures maximales, elles iront de 6 à 15 degrés.
France Culture, élection municipale 2026. Maire, pourquoi faire ?
Maire, pourquoi faire ? Notre rendez-vous hebdomadaire consacré aux enjeux des élections municipales de mars prochain. On s'intéresse ce soir à la carte scolaire et plus particulièrement aux fermetures d'écoles en zone rurale. En raison du déclin démographique français, il y aura à la rentrée prochaine 150 000 élèves en moins dans le premier et le second degré. Résultat, le ministère de l'Éducation va supprimer 4 000 postes d'enseignants et fermer de nombreuses classes. Les communes rurales n'échapperont pas à ces fermetures. Et beaucoup vont devoir mettre en place des regroupements scolaires. Une décision prise à contre-cœur par les élus qui redoutent une désertification de leur village. Exemple à Curzé-sur-Vonne, au sud de Poitiers, dans la Vienne. C'est un reportage d'Akin Kasmi.
Donc là, on arrive dans la mairie. Monsieur Salès, secrétaire de mairie.
Bonjour.
Et puis nous voilà dans mon bureau.
Curzé-sur-Vonne est une petite commune rurale de 397 habitants. Ici, pas de commerce de proximité et la boulangerie a fermé il y a déjà plusieurs années. La petite école maternelle, créée il y a tout juste 10 ans, avec ses deux classes et ses 41 élèves, rythme donc la vie du village. Mais depuis la fin mai, elle est sous la menace d'une fermeture. En effet, avec la baisse démographique, le rectorat et la préfecture souhaiteraient la regrouper avec d'autres communes voisines. Alors, si initialement Rosène Sénélas, la maire sans étiquette de Curzé-sur-Vonne, a dû signer à contre-cœur la lettre de fermeture de son école, en espérant obtenir en échange une marge de négociation avec l'Académie de Poitiers, elle s'est finalement rétractée. Résultat, pour l'instant, la fermeture est suspendue.
Le 28 mai dernier, j'ai signé une lettre d'engagement dans laquelle on anticipait la fermeture de petites écoles, mais où il était quand même précisé que le maintien de notre école maternelle devait être étudié. Suite à cela, on a été inscrit, chacun de nos villages, dans le dispositif Village d'Avenir. Et un travail a dû être amorcé pour, avec un cabinet d'études, réfléchir au devenir de nos bâtiments scolaires. Je n'ai pas souhaité poursuivre cette démarche parce que je n'ai pas senti qu'il y avait une réelle volonté d'étudier le maintien de notre école maternelle. Donc je me suis désolidarisée de cette démarche. Et aujourd'hui, je souhaite que notre école maternelle, elle continue à vivre, elle continue d'accueillir des enfants dans les prochaines années.
Une situation qui inquiète beaucoup les habitants, qui ont appris la nouvelle fin mai sur les réseaux sociaux, sans avoir été prévenus au préalable, reconnaît l'élu.
Alors, effectivement, les parents viennent me rencontrer, mais pas que les parents finalement, les citoyens aussi. Les citoyens, les habitants de Curzé viennent me rencontrer pour savoir comment je me positionne, quelle vision j'ai de Curzé demain sur l'école. Donc, je leur explique qu'effectivement, je suis attachée à l'idée que cette école maternelle elle puisse être maintenue le plus longtemps possible.
Mais au-delà des élèves, le maintien de l'école est aussi primordial pour l'attractivité du village.
L'école du village, c'est le poumon. C'est le poumon de notre village. C'est les rires des enfants. C'est les enfants qui sortent de l'école, qui vont sur l'air de jeu à côté. C'est la rencontre des enfants avec les habitants un peu plus âgés qui sont sur le village. C'est tout ça qui participe aussi à l'attractivité de notre village. Donc, c'est important de préserver cela. Parce que si demain, Curzé n'a plus d'école maternelle, ou bien même des milliers de villages n'ont plus d'école maternelle, qu'adviendra-t-il de nos villages ?
Alors, même si l'édile reconnaît avoir eu des périodes de découragement et hésité avant de se représenter aux élections municipales, face à la puissance et au pouvoir du ministère de l'Éducation nationale, aujourd'hui, elle se dit prête à se battre pour garder son école. Un combat qui, pour l'instant, est encore bien loin d'être gagné. En attendant, les parents d'élèves tant de se mobiliser contre la fermeture afin d'éviter de longs trajets pour leurs enfants pouvant aller jusqu'à 40 minutes en bus. À l'image de Julie Crène, dont la fille âgée de 5 ans est scolarisée à Cuisy-sur-Vonne, nous la retrouvons à la sortie des classes.
En tout cas, les enfants qui sont domiciliés à Cuisy et qui vont à l'école maternelle, c'est prévu qu'ils soient rescolarisés sur l'école de Rouillé. Et l'école de Rouillé est beaucoup plus loin. Et quand on prend le temps d'un trajet en bus, plus le temps qu'il faut pour la montée des élèves, la sortie des élèves, attacher tout le monde dans le bus, toute la sécurité des enfants, il y en a pour bien plus de 30 minutes. Et ce qui rallonge quand même sacrément le trajet pour les enfants. Et en plus, c'est 30 minutes s'il n'y a pas plusieurs arrêts en cours de route. Est-ce que s'il y a un arrêt aussi au village à côté à Sensé pour récupérer les enfants en âge d'être en maternelle scolarisé à Sensé parce qu'ils iront aussi à Rouillé. Enfin voilà, ça rallonge.
L'année dernière, avec la baisse démographique, 2400 classes ont été fermées dans le premier degré, une tendance qui devrait encore se poursuivre à la rentrée, puisque le budget qui vient d'être adopté prévoit la suppression de 4000 postes d'enseignants.
Alors, on vient de l'entendre, les maires et les parents d'élèves n'ont pas vraiment les moyens d'éviter les fermetures d'écoles, d'autant plus que ces fermetures sont jugées inévitables par le ministre de l'Éducation, Édouard Geffray, en raison de la fameuse baisse démographique. Hakim Kasmi a rencontré Édouard Geffray.
D'abord, chaque année, il y a des ouvertures, des fermetures de classes partout en France. Pour vous donner une idée, il y a 150 000 élèves de moins à la rentrée prochaine annoncés dans le système éducatif. Entre 2019 et 2029, nous aurons perdu 1 million d'élèves sur 6 700 000, 1 million d'élèves dans le premier degré. Donc effectivement, inévitablement, ça conduit dans certains endroits à des fermetures de classes parce qu'il n'y a plus d'enfants. L'enjeu pour nous, c'est de faire en sorte évidemment de freiner au maximum ces fermetures. On ne prévoit pas des suppressions de postes à proportion de la démographie, mais seulement à moitié moins, pour précisément ne pas fermer partout et accessoirement améliorer le taux d'encadrement de nos élèves.
Alors, en zone rurale, ça va se traduire dans certaines communes par des regroupements, ce qu'on appelle des regroupements pédagogiques intercommunaux. Beaucoup de maires sont inquiets, et de parents aussi, parce que pour certains enfants, notamment des tout-petits, les trajets vont pouvoir être beaucoup plus longs. Par exemple, pour un enfant, les trajets pourront passer de 30, voire à 1 heure pour ceux qui viendront en bus. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces mères et ces parents qui sont inquiets?
C'est heureusement assez rare qu'on arrive à des temps de trajet aussi longs que celui que vous avez évoqué. Donc, les regroupements pédagogiques intercommunaux, d'abord, c'est quelque chose d'ancien. Il y en a aujourd'hui sur tout le territoire national. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que des parents qui seraient confrontés à ça, il faut qu'ils sachent qu'il y en a plusieurs milliers en France et que c'est quelque chose qui fonctionne. Quelle est l'idée, grosso modo? C'est que on puisse conserver l'école, la structure école avec le directeur ou la directrice d'école, mais que compte tenu de la baisse du nombre d'élèves, eh bien, une école fait par exemple CP, CE1, CE2, et puis une autre école, peut-être un quart d'heure de là, fait CM1, CM2. Donc effectivement, ça peut signifier du temps de transport en plus. Après, il y a un enjeu qui est travaillé avec les collectivités territoriales autour du transport scolaire pour faire en sorte que celui-ci soit le plus optimisé possible. C'est quelque chose qui, évidemment, va être discuté. J'ai notamment généralisé ce qu'on appelle les observatoires des dynamiques rurales et territoriales dans tous les départements pour travailler ça avec les élus et puis pour réfléchir aussi à l'offre scolaire. Vous savez, moi, j'ai vu il n'y a pas très longtemps une classe dans laquelle un enfant de CM2 était le seul de son niveau depuis la petite section. Le seul de son niveau. On ne peut pas non plus souhaiter ça à un enfant. Donc, c'est un équilibre. Partout où on peut maintenir ouvert, on maintient ouvert. Lorsqu'il faut s'organiser, on s'organise. À la fin, ce qui compte, c'est la qualité de l'offre scolaire pour l'enfant.
Alors, on le sait, à la rentrée, il y aura 4000 postes de supprimés, que ce soit en zone rurale ou ailleurs. Ça veut dire que si on avait dû tenir compte de la baisse démographique, il aurait fallu supprimer le double de postes d'enseignants.
Absolument. Il aurait fallu supprimer 8000 postes si on avait suivi la démographie. Et en réalité, si on avait suivi la démographie depuis plusieurs années, on aurait 15 ou 20 000 postes de moins aujourd'hui dans le système éducatif. Donc nous ne suivons pas la démographie et tout l'enjeu, c'est justement aussi de manière pluriannuelle, c'est-à-dire compris pour les 10 ou 15 prochaines années. Moi, je pense qu'il faut se projeter en été sur 20 ans. Ce qu'il faut, c'est collectivement se dire que nous devrons accepter probablement une baisse du nombre de professeurs, mais que nous devons aussi collectivement faire en sorte qu'elles ne suivent pas la démographie pour améliorer le taux d'encadrement, c'est-à-dire en clair avoir moins d'élèves par classe, et puis pour amortir les effets territoriaux.
Actuellement, la moyenne dans le premier degré est d'environ 21 élèves par classe. Elle a légèrement baissé. C'est un peu plus que la moyenne des pays de l'OCDE qui est environ à 19 élèves par classe. Qu'est-ce que vous répondez aujourd'hui aux maires qui sont démunis face à leurs concitoyens lorsqu'ils doivent annoncer des fermetures de classe?
En France, nous aurons pour la première fois en 2026, à l'entrée 26, effectivement une moyenne de 21 élèves par classe. Il faut savoir évidemment que c'est variable. Dans le rural isolé, par exemple, dans le rural éloigné, on est à 19,5 élèves par classe. Donc on est déjà sur une moyenne qui est pas loin de la moyenne OCDE, première chose. Deuxième chose, quand on compare avec la moyenne OECD, on compare avec la moyenne de pays qui, pour la plupart, sont entrés dans un divers démographique il y a 10, 20, voire 30 ans. Et donc, les deux situations ne sont pas comparables. C'est-à-dire que nous sommes en train d'entrer brutalement dans une situation que certains pays connaissent depuis 20 ans, je pense notamment à l'Allemagne ou à l'Italie. Et le troisième élément, c'est que nous ne cessons pas d'améliorer le taux d'encadrement. Vous avez parlé d'une petite baisse. Il y a 8 ans, en 2017, on avait 23,5 élèves par classe. Donc on a déjà baissé de plus de 10% de élèves par classe en l'espace de quelques années. Et une fois encore, ça ne va pas se retourner contre l'école rurale. Vous savez, aujourd'hui, 30% des écoles sont en milieu rural pour seulement 18% des élèves. Donc c'est pas ça l'enjeu. Mais l'enjeu, effectivement, c'est de faire en sorte que d'abord on ferme le moins possible, et ensuite que quand on est obligé de fermer une classe, et on propose en face une offre scolaire qui réponde aux besoins de l'enfant. Il faut vraiment repartir de ça.
Édouard Geffray, le ministre de l'Éducation nationale, au micro d'Hakim Kasmi. Maire, pourquoi faire, notre rendez-vous hebdomadaire avant les municipales, à retrouver sur franceculture.fr et sur l'application Radio France.